Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Joseph, le 1er mai 90.
Spirituelle au plan philosophique, c'est la vie de l'intelligence et de la volonté. C'est la vie supra-animale, la vie propre à l'homme. Et c'est pour ça qu'au point de vue philosophie du vivant, c'est ce qu'a c'est intéressant. grâce à l'abstraction. Et je porte alors en moi cette vie qui peut se développer par elle-même. Pour développer mes connaissances mathématiques, je suis pas obligé de revenir toujours à l'expérience. Pour développer ma vie philosophique, je reviens toujours à l'expérience, mais aux expériences classiques. Ce n'est pas tellement de nouvelles expériences, c'est l'approfondissement de ces expériences. Et donc, je suis très libre dans ma vie intellectuelle de tout le contexte extérieur, sauf l'artiste. La connaissance affective dépend évidemment de mon ami, de ce que j'aime, mais je la porte en moi. Dans la connaissance artistique, je suis dépendant du milieu dans lequel je suis. Donc vous voyez, il y a à la fois une immanence et un besoin très intense de manifester la parole, le geste, l'activité artistique. Il y a besoin de dire. Ma vie intellectuelle implique ce point de vue du dire. Il y a donc là deux dimensions que je note tout de suite. Et je pourrais même dire trois dimensions que je peux noter tout de suite. Une dimension contemplative, une dimension de méditation et de réflexion et de problème, et une dimension de communication. Ces trois grandes dimensions que je porte en moi dans ma vie intellectuelle. Et chaque fois, je vois que j'ai une très grande diversité. C'est pour ça qu'au point de vue philosophie du vivant, c'est si difficile de bien comprendre ce qu'est cette vie de l'esprit. Une intériorité qui implique des demeures diverses. L'intériorité de la logique n'est pas l'intériorité de la contemplation, n'est pas l'intériorité de la connaissance affective, n'est pas l'intériorité de celle de l'artiste. Donc quand je dis intériorité et immanence, je vois tout de suite que là aussi je retrouve une très grande diversité. Mais c'est quand même toujours une certaine intériorité qui caractérise ma vie intellectuelle. Et une recherche de vérité. La vie intellectuelle implique cette recherche de la vérité. Mais cette recherche de la vérité est elle-même très diverse. Mais c'est... Il y a une grande diversité et une certaine unité dans l'immanence ou dans la recherche de la vérité. Je crois que c'est très très important de comprendre cette diversité très très grande de ma vie de l'esprit. Je ne peux pas ramener ma vie de l'esprit à une seule dimension. Ce serait possible, ce serait faux. Je constate ça tout de suite. Mais c'est très important pour que nous puissions comprendre comment seule une connaissance analogique va pouvoir regarder toute cette diversité pour elle-même. Et là aussi, ça fait peut-être partie de cette réflexion première que j'ai sur ma connaissance, ma vie intellectuelle. C'est qu'il y a une tentation permanente de tout ramener à une idée univoque. L'université joue un rôle très important dans ma vie intellectuelle. Si je ne suis pas très attentif, je retombe tout le temps dans l'université, qui est le fruit de l'abstraction. Et l'abstraction joue un rôle important dans ma vie intellectuelle. Mais je vois que par l'université, je perds toute la qualité de ma vie de l'esprit. Et pour garder cette qualité de ma vie de l'esprit, je suis obligé de reconnaître cette très grande diversité. Donc voyez, là encore, diversité et unité. Soif d'unité et diversité. Soif de simplification et diversité. Par le fait même, je retrouverai des comportements différents intellectuels. l'esprit connaît une diversité plus grande comme la vie des sens. Comme la vie passionnelle. Une diversité beaucoup plus grande. Qu'elle prône dans mon esprit. J'ai donc toujours une très grande difficulté à pouvoir simplifier sans simplification. Simplifier en gardant le contact avec le réel. Et ça, c'est l'exigence de la vérité. Puisque la vérité implique ce contact avec la réalité. Un autre problème très important de ma vie de l'esprit, c'est de comprendre que toute ma vie de l'esprit se développe dans l'intentionnalité. Et c'est proprement dans ma vie de l'esprit que j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité. Je vois que l'intentionnalité de ma vie intellectuelle connaît elle-même une très grande diversité. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité? Parce que j'ai conscience de cette intentionnalité. L'intentionnalité exprime le fruit d'une connaissance qui se développe grâce à l'abstraction. Là, je suis contre ceux qui prétendent que l'intelligence est le miroir des choses. Toute la tendance marxiste. Et comprendre que l'intelligence n'est pas du tout le miroir des choses. Quand vous voyez la basilique de Paris Monial se reflétant dans le petit cours, chaque fois qu'on vient à Paray le Monial et qu'il fait beau, on voit toujours ça. C'est le reflet. Eh bien, l'intelligence est trop vivante pour refléter. Et c'est pour ça qu'elle assimile en abstrayant. Alors je vois la naissance de l'intentionnalité qui se fait à partir de ce problème de l'assimilation. Une assimilation qui fait que je désire posséder au-dedans de moi-même et au plus intime de moi-même tout ce que je connais. Le vécu intellectuel est vécu à partir de cette assimilation intentionnelle. Au-dedans de moi-même, il y a une abstraction où je conçois au-dedans de moi-même une forme connue, vécue, intentionnelle, le concept. Toute ma vie intellectuelle assimile, qui porte en elle-même, qui conçoit le fruit de l'assimilation, implique cette conception de la forme reçue en premier lieu par l'expérience et ensuite grâce à l'abstraction possédée au plus intime de moi-même et assimilé. Mais cette forme qui passe de l'expérience sensible à l'assimilation implique cette transition. concept, c'est une forme intentionnelle, vécue, portée dans mon intelligence. C'est le fruit commun de la réalité expérimentée et de mon intelligence. Et c'est pour ça que saint Thomas n'hésite pas de faire la comparaison avec la conception. C'est l'intelligence qui reçoit, qui est comme fécondée par la réalité que je touche par l'expérience. Mais pour pouvoir être fécondée de cette manière, il faut que l'expérience de la réalité extérieure soit reçue au-dedans de moi. Et cette détermination de la réalité extérieure conçue au-dedans de moi implique l'abstraction. J'abstrais le blanc du mur. J'abstrais le blanc du visage. J'abstrais le blanc d'une feuille à papier. Du papier blanc. Et ainsi de suite. Mon intelligence recueille, en abstrayant, tous les blancs dont elle a l'expérience. Elle les recueille en les abstrayant de leur diversité pour saisir ce qu'est le blanc. Alors, je vois que ce procédé d'abstraction, c'est de pouvoir pénétrer dans la réalité pour connaître ce qu'elle est. Et c'est mon intelligence qui, recueillant toutes ces déterminations semblables, en les abstrayant de leur contenu existentiel, individuel, va essayer de saisir dans cette forme ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a d'unique, de particulier. Et mon intelligence est fécondée par cette forme intentionnelle. Et elle réagit et elle conçoit une nouvelle forme intentionnelle. Elle saisit parfaitement la signification. Et cette signification a un mode universel. Là, je caractérise ma vie intellectuelle, l'immanence de ma vie intellectuelle, à cette pauvreté que je possède tout selon un mode intentionnel. Et dans la pauvreté de l'abstraction. Réfléchissez tout simplement à ce fait que vous pouvez penser le blanc au-delà de toute description. Vous pensez le blanc. Vous pensez l'amour. Vous pensez la haine. Tous les termes de votre langage, vous pouvez vous y arrêter dans leur signification et penser à cette signification. À ce moment-là, vous comprenez ce lien qui existe entre la réalité expérimentée, le blanc du mur, le blanc du visage. Vous pensez à ce, vous voyez ce que vous pensez est donné d'abord dans l'expérience externe. D'une manière quasi automatique, naturelle, sans que la volonté intervienne, vous passez de cette expérience à cette conception, ce qu'est le blanc. Et vous l'exprimez par un mot qui vous permet de communiquer aux tout s'importe pour que vous caractériez le point de vue de votre vie, de l'esprit. C'est à la fois extraordinairement riche, puisque toutes les réalités, je peux y penser. Je ne suis donc pas étranger avec ces réalités, puisque je les pense, je les porte en moi. Et en même temps, toutes ces réalités n'épuisent jamais mon intelligence. Plus je connais, plus je suis curieux, et plus je désire connaître. C'est l'ardeur de l'intelligence. Il faut travailler avec ardeur. Eh bien, l'ardeur de l'intelligence, c'est la curiosité. Tout m'intéresse. Je désire creuser toujours plus. Et dès que j'ai creusé sur un sujet, immédiatement, ça éclaire tous les autres. Et je vois que ma vie intellectuelle va toujours à partir de l'expérience. C'est par le creuset de l'abstraction où j'abandonne certaines choses et je ne retiens que d'autres. Le blanc du mur, je laisse tomber le mur et je ne peux saisir que le blanc, puisque c'est ça que je cherche. D'autres fois, j'abandonnerai le blanc et je regarderai le mur. C'est autre chose. Ceci est, j'abandonne ceci et je veux comprendre ce que c'est que est. Ma vie intellectuelle implique l'abstraction, condition sine qua non pour découvrir une intériorité qui va de fait se réaliser au plus intime de moi-même. Dans cette opération intellectuelle qui consiste à assimiler les déterminations multiples et diverses de la réalité. Et à les porter au-dessus de moi-même. Et à les exprimer. Intentionnalité qui qualifie tout ce que je pense a comme caractère particulier d'être relié toujours à son origine. C'est pour ça que l'intentionnalité est toujours relatif à autre chose. C'est le propre de l'intentionnalité. C'est quelque chose que je possède autant de moi-même, mais qui dépend de la réalité, qui a dépendu de la réalité, et qui en dépend d'une certaine manière toujours. D'une certaine manière. Cette réalité à laquelle je pense, que je possède en moi, je la possède sous ce mode intentionnel, qui fait que cette réalité possédée sous ce mode intentionnel est relative à la réalité existante, indépendamment de moi. Elle me fait comprendre donc comment ce qui est extérieur devient intérieur. Et enrichit mon intériorité, ma vie intérieure, par ce biais de l'intentionnalité. L'intentionnalité donc exprime à la fois la dépendance à l'extérieur et quelque chose de tout à fait nouveau, qui peut être purement d'intérieur au niveau de l'esprit. Je peux avoir un concept de réalité tout à fait matérielle. Et du fait même que je les possède sous ce mode conceptuel, intentionnel, un signe qu'il y a en moi quelque chose qui me fait dépasser le monde physique. Je le domine en le nommant. Je le domine en le connaissant. Et en le connaissant, je comprends que je suis au-dessus. L'intentionnalité qui fait que je possède toutes les déterminations sous ce mode intentionnel montre à la fois ma dépendance et mon autonomie. En connaissant la réalité, je ne la modifie pas. Je corrige, voyez, ce qu'il y a de faux dans le mauvais œil. Tout ça, ça fait partie descriptive, vous voyez, de ma vie intellectuelle. Pour pouvoir décrire ma vie intellectuelle. Au point de vue philosophie du vivant, c'est la première chose que je dois faire. Pour comprendre toute cette extension et ces notes différentes et ces caractéristiques. Donc ma vie intellectuelle s'installe dans l'intentionnalité grâce à l'assimilation. Je désire retourner au réel. Je ne peux pas rester dans l'universel, aussi bien celui de la signification que celui des principes. Je ne peux pas. Il y en a qui y restent. Et je dis que c'est une maladie de l'intelligence. C'est la cérébralisation. Il y a des gens qui cérébralisent tout le temps, tout le temps. Ils restent tout le temps dans principes. C'est une cérébralisation, c'est une tentation. Parce que l'immense avantage de l'homme, c'est que je suis imprenable. Personne ne me dérange quand je suis au niveau de l'universel, quand je suis au niveau des principes. Alors quelquefois, j'ai peur de la réalité. Parce que l'universel n'est pas méchant, incolore, inodore, sans saveur. C'est merveilleux. J'aime bien ça. Personne ne me dérange. Je suis tranquille. Il y a certaines intelligences qui demeurent dans l'universel et qui sont saisies par l'universel. Il y a certaines personnes, certaines intelligences qui demeurent dans les principes. Tout le temps dans les principes. Tout le temps. Dans les axiomes des principes. Jamais on vit en réel. C'est ce qu'on appelle la cérébralisation. On prend l'intentionnel comme une réalité qui me suffit. Or, l'intentionnel n'est jamais une réalité qui me suffit. Je ne peux pas vivre de l'intentionnel. Je ne vis que de la réalité existante. Il faut bien comprendre cette tentation. Ça fait partie de la vie de l'esprit. Normalement, cette phase d'assimilation qui est très importante, parce que c'est l'éclosion de toutes les significations des choses. Cette phase d'assimilation demande d'être dépassée par un retour au réel qui se fait grâce au ce champ très varié dont il faut prendre connaissance pour essayer de découvrir ce qu'est ma vie intellectuelle. Donc, premièrement, ça. Ensuite, je peux analyser cette vie intellectuelle. Et toute la phase descriptive, qui est très ample, je la donne rapidement, mais vous pourriez en mettre des pages et des pages. C'est facile à comprendre ça. Si on a une, tant soit peu une vie intellectuelle, on voit très bien. Ça se développe, ça se développe, ça se développe. Indéfini. Ça se développe dans des lieux différents, philosophiques, mathématiques, scientifiques, affectifs, poétiques. Il y a des formes d'intelligence très différentes, des formes d'esprit très différentes. Alors je vais analyser maintenant. Essayer de comprendre quelle est la structure de ma vie intellectuelle, dans la mesure où je puis. Quelle est la structure de ma vie?